parole de jeunes. Votre émission Parole de jeunes sur les ondes de Radio Présence Figeac. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Présence Figeac sur le 87.7 FM ou bien par l'intermédiaire de notre site internet le www.radioprésence.com. Bienvenue à vous et merci de votre fidélité dans cette émission Parole de jeunes. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous propose de donner la parole à des élèves de seconde du collège lycée Jeanne d'Arc de Figeac. Ils se sont initiés à la revue de presse radiophonique comme chaque année avec leur professeur d'histoire géo Monsieur Leborgne et la professeure documentaliste de Jeanne d'Arc Madame Sireysol. Ils ont réalisé une revue de presse et l'ont enregistrée dans nos studios. Commençons tout de suite avec les deux premiers groupes. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence.
Les émeutes de Brasilia ont été comparées à la prise du Capitole à Washington il y a 2 ans. Il n'y a pas eu vraiment de danger au cours des émeutes du 8 janvier. Pour autant, d'autres scénarios à risque restent possibles dans les semaines et les mois à venir qui pourraient compliquer la vie du président Lula et faire du tort au Brésil, à sa démocratie et son économie. Le risque est existant. Les autorités américaines rappellent régulièrement que le terrorisme intérieur et contre le gouvernement est la plus grande menace contre la sécurité nationale. Au Brésil, beaucoup d'éléments portent à croire que le pays va devoir composer avec le risque terroriste, des menaces permanentes et des perturbations. La semaine qui a suivi le 8 janvier, 3 importants pylônes électriques ont été abattus et 3 autres endommagés. Le 9 janvier, sur Telegram et Twitter, des groupes bolsonaristes appellent à bloquer des raffineries dans tout le Brésil afin de provoquer des pénuries d'essence et de déstabiliser le gouvernement. Les déploiements de police ont permis de l'empêcher. L'armée ne mènera ni ne soutiendra aucune tentative pour renverser Lula. La loyauté est passée lors du deuxième tour de l'élection. Jusqu'à présent, Lula donne une image d'autorité. Les Brésiliens sont 75% à désapprouver l'insurrection manquée et 40% estiment que Lula n'est pas vainqueur. Une chose est sûre, ce n'est pas parce que le 6 janvier 2021 et le 8 janvier 2023 se rassemblent que leurs suites seront identiques.
Également en janvier 2023, dans le journal La Croix, on nous parle de la question des fuites dans les réseaux de canalisation face à la sécheresse. En France, 1/5 de l'eau potable est perdue chaque année. À l'occasion du Carrefour de l'eau, le ministre de la Transition économique, Christophe Béchu, annonce un projet de rénovation pour un futur plan anti-sécheresse. L'âge moyen des canalisations de France est de 50 à 60 ans. Or, chaque année, seulement 0,7% sont rénovées. Alexandre Mayol, maître des conférences en économie à l'Université de Lorraine, nous explique que le renouvellement du réseau et les réparations des fuites coûtent cher aux collectivités. Ces coûts représentent un mur d'investissement, alors qu'en comparaison, les coûts d'un mètre cube d'eau perdu est faible, poursuit l'économiste. Si les collectivités doivent beaucoup investir, le consommateur d'eau devra payer plus. En 2022, plusieurs dizaines de communes de Rhône-Méditerranée-Corse ont été privées d'eau lors de la sécheresse. Les fuites d'eau potable sont donc un problème important en termes d'écologie et d'économie. Lors de grands feux, les pompiers se comportent comme des héros, mais manquent d'eau pour accomplir leur rôle parfaitement.
En parlant de héros, les enfants d'aujourd'hui en sont entourés et sont essentiels pour eux.
Caractéristique forte de l'édition pour la jeunesse, les héros recurrent fondent l'une de ses premières spécificités, à savoir l'organisation de livres en série, cycles ou collections. Présentes dès les origines des livres pour enfants, les séries basées sur des héros assurent aujourd'hui une part importante de succès des ouvrages pour la jeunesse, donc un enjeu commercial pour la petite enfance. Les séries à héros peuvent constituer une étape importante, notamment au début de la lecture autonome. L'identification à un héros est un élément également fondamental de la constitution de la personnalité, admet Vincent Jouvet. Une histoire est un support de production fantasmatique qui laisse la possibilité d'apprivoiser sa vie personnelle, d'envisager des solutions ou d'éclairer de jour nouveau des situations vécues. Les héros permettent de se voir soi-même ou autrement son entourage. Quand l'adolescent atteint la faculté enfantine à se glisser dans l'imaginaire, perd de sa souplesse, les histoires permettent de mettre en scène une dialectique entre réel et imaginaire. D'où l'intérêt premier accordé aux héros de fantasy. Au XIXe siècle, les historiettes qui développent des héros vertueux connurent le succès. Les héros n'arrivent pas toujours à vaincre les monstres du premier coup, mais ils arrivent toujours à l'issue de leur parcours. Les romans adolescents sont orientés vers des livres dits miroirs qui reflètent problèmes des jeunes aux figures des héros importants. Cette figure du héros ne cesse de se réinventer.
Les héros sont présents depuis toujours, sous différentes formes. Plusieurs auteurs en ont créé, tels que Jules Verne.
Dans Comment ça marche, Delphine Gaston-Sloan nous en fait le portrait. Cet auteur du 19e siècle a écrit de nombreux romans en passant dans différentes époques, sur Terre ou dans l'espace. Verne est reconnu comme le père de la science-fiction et est toujours lu avec fascination, nous dit Madame Gaston-Sloan. Il avait une grande imagination et ne s'est pas contenté de parler des progrès de son époque. Il a anticipé ceux à venir et est devenu une source d'inspiration pour des générations d'inventeurs. Par exemple, il nous parle déjà d'hélicoptères en 1865, dans son œuvre Robur le Conquérant. Il a été capable de prévoir et d'avertir sur les dangers potentiels liés aux avancées scientifiques et aux savants fous capables d'inventer des engins dangereux pour l'humanité. Verne nous fait voyager avec lui à travers ses romans. Il meurt en 1905 mais nous laisse une œuvre monumentale, ses voyages extraordinaires, véritable roman de la science. Il crée de nombreux voyages et animaux extraordinaires. Cette fois-ci, Perrine Moutarde nous parle de vrais animaux, les oiseaux en France.
Au cours des 10 dernières années, 41% des espèces d'oiseaux observées en France ont vu leur effectif diminuer, comme le merle noir par exemple, contrairement à d'autres espèces, comme les perruches à collier, qui ont vu leur nombre en hausse. Le président s'exprime à ce sujet en qualifiant d'hécatombe ces baisses de population. Un protocole rigoureux a été mis en place avec une participation libre et partout, décrit Marjorie Poitevin, responsable de l'Observatoire des oiseaux des jardins ainsi que les sciences participatives de la Ligue des protections des oiseaux. 60,5 millions de données ont été récoltées dans plus de 100 000 jardins français. Toutes ces données ont été analysées rigoureusement grâce à un protocole scientifique. Plusieurs facteurs influents expliquent la disparition des oiseaux, mais un des principaux facteurs est l'effondrement des colonies d'insectes à cause des pesticides et de leur utilisation généralisée. La rénovation des façades détruit aussi les lieux de nidification pour certaines espèces, comme les martinets. La perte d'habitat chez les espèces reste la raison la plus commune de la baisse des effectifs des races d'oiseaux. C'est pour cela que l'implantation des nichoirs dans les jardins des particuliers est sollicitée. Outre ses premiers bilans, l'un des plus grands programmes de sciences participatives en France, en cours, devra permettre de mieux comprendre les flux migratoires à l'avenir dans les jardins.
Merci.
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 Présence.
Bonjour. Dans cette revue de presse, nous repassons sur l'actualité du dernier mois.
La Croix traite de la pénurie et de l'inflation en Tunisie, notamment la pénurie de lait qui handicape particulièrement les citoyens comme Myriam qui dit faire le tour des épiceries en espérant qu'une personne puisse lui offrir 2 litres de lait. Les supermarchés ont l'ordre de restreindre les quantités par client. De plus, une inflation vertigineuse vient s'ajouter à la pénurie. Le kilo de bœuf est passé de 20 dinars à 35 dinars, soit 6 à 10,42 €. Sabika nous confie de n'acheter plus que de la viande hachée de temps en temps. L'État fixe des prix pour le pain et les produits de boulangerie en mettant des subventions sur la farine. Pourtant, certains membres de l'État continuent à nier cette situation, comme Kai Saïd, qui crie à l'exagération de la spéculation.
Le remède contre l'inflation semble utopique, contrairement à l'effet placebo qui est, lui, bien réel. Vous ne devez pas être sans connaître cet effet. D'après la croyance populaire, le placebo pourrait vous soigner sans prendre aucune substance. Nathalie Simon et Loun Esgueva décortiquent le mécanisme du placebo dans le nouveau numéro de « Comment ça marche ?». La première utilisation du placebo connue remonterait à l'Antiquité, où les médecins grecs n'hésitaient pas à donner en guise de médicaments des toiles d'araignée ou de la poussière de roche. Mais est-ce efficace ? On constate que 35% des patients ont vu leur état s'améliorer après avoir pris un médicament qui ne contient aucun principe actif. Des études scientifiques ont constaté que le placebo est un antidouleur puissant, peu importe le degré de douleur. Son efficacité va aussi dépendre des conditions dans lesquelles le placebo est délivré. La réaction va dépendre de sa couleur, rouge pour stimuler, bleu pour apaiser, ou de sa forme, gélule, comprimé, poudre. Le placebo sert aussi à démontrer l'efficacité d'un médicament en donnant à 50% des volontaires le placebo et aux autres personnes le vrai médicament.
En parlant de solutions miracles, Le Monde évoque la possibilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer la prévention de la santé au travail. Selon un grand nombre de scientifiques, l'IA est un moyen qui peut s'avérer être un atout dans le secteur de la santé pour les travailleurs. Ainsi, l'IA pourra permettre de limiter la survenue d'accidents au travail pour les entreprises qui comptent des métiers à haut risque où l'on observe le plus d'accidents. L'IA pourrait être une aide précieuse pour mieux exporter les données et alors mieux comprendre la multiplication des incidents, assure Martin Bierry, chargé d'études au laboratoire d'innovation de la CNIL. L'IA permettra de transmettre des données biométriques, mais également des données musculo-squelettiques, et donc de donner l'alerte sur la fatigue d'un travailleur grâce à une combinaison d'analyses de différents paramètres, comme explique Timothée Sylvestre, chargé de la prospective au CEA. Les robots, selon les chercheurs, pourraient être également assister les salariés dans certaines tâches et limiter la survenue des troubles musculo-squelettiques. En 2018, 40 852 cas de maladies au travail sont la conséquence de troubles musculo-squelettiques. Les chercheurs souhaitent également limiter la présence des travailleurs sur les lieux à haut risque au sein d'une entreprise en les remplaçant par des machines. Les premières expérimentations ont été menées en France par l'école des mines de Nancy pour gérer les déchets ménagers. Néanmoins, certains experts mesurent le potentiel succès des robots pour améliorer la santé au travail. Comme Michael Sylvestre, employé de la CEA, qui assure qu'une technologie mature ne garantit pas sa propre réussite, car elle doit tout d'abord rencontrer un marché.
Malgré les avancées technologiques, certains continuent de penser que la Terre est plate. Comment, à notre époque, est-ce possible? C'est la question que soulève le magazine Science et Avenir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez les platistes? Tout d'abord, saviez-vous que 9% des Français et 16% des Américains sont prêts à croire que la Terre est plate? Un chiffre qui peut surprendre quand l'on sait que déjà les Grecs anciens savaient la Terre ronde. Pourtant, au Moyen-Âge, ils y croyaient à cette théorie. Eh bien, Sylvie Mauny, chercheuse associée à l'Université de Paris, nous dit que non, que même les premiers pères de l'Église étaient au courant et que le mythe du Moyen-Âge ignorant fut très renforcé par Voltaire par volonté de faire resplendir la Renaissance en rabaissant le Moyen-Âge. Mais les associations de platistes ne l'entendent pas de la même oreille et procèdent à des tests de mesure de la platitude. Cela consiste à émettre une lumière laser à l'extrémité d'un lac et l'observer à l'autre extrémité. D'après eux, s'ils voient le laser, alors la Terre est plate. Mais la philosophe des sciences à l'université de physique de Rennes, Marie Guéguen, explique que cette expérience n'est pas suffisante pour affirmer que la Terre est plate. En effet, il faut tenir compte des variations de la densité de l'air, de sa température, de celle de l'eau, de la réfraction atmosphérique et de tout plein de faits scientifiques. À l'ère des réseaux sociaux, ce genre de croyances se propage plus vite et efficacement. Par exemple, la crise de la pandémie a subi une multitude de théories à son égard qui ont évidemment pris racine sur Internet.
Il y en a qui ne se demandent pas si la Terre est plate et qui continuent leur parcours pour le trophée. En effet, La Croix nous parle de l'équipe de France dans le mondial de handball, du fait qu'ils se soient qualifiés une nouvelle fois pour les demi-finales ce vendredi 27 janvier contre les Suédois, puis du fait qu'ils aient déjà gagné la compétition 6 fois dans ce siècle. On nous parle aussi de l'équipe de France décimée par les blessures. Ce sont 7 joueurs, l'équivalent d'une équipe entière, qui sont restés sur le carreau. En quart de finale contre l'Allemagne, le mercredi 25 janvier, le gardien Vincent Gérard, n'ayant fait aucun arrêt lors des 18 premières minutes du match, s'est fait remplacer par Rémi Desbonnet, le gardien de Montpellier, s'étant offert une soirée de rêve grâce à ses performances incroyables. 14 arrêts pour 30 tirs. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez la fin de ces enregistrements avec les 3 derniers groupes d'élèves la semaine prochaine sur les ondes de Radio Présence Figeac. Je rappelle que ce sont des élèves de seconde du collège lycée Jeanne d'Arc de Figeac que vous venez d'entendre et qui se sont initiés à la revue de presse radiophonique. Bonne continuation à notre écoute. C'était votre émission Parole de Jeunes sur les ondes de votre radio chrétienne de proximité.